enregistrer. Et puis on va. Tu peux mettre le PowerPoint, comme ça ce sera fait. Tu retrouves ? Hop, ça a été trop loin. Voilà. L'ADN du colombier, une église de louange et d'adoration prophétique. J'ai parfois entendu de la part de certaines personnes, mais depuis que je suis chrétien, donc ça fait un petit bout de temps, j'entends des fois, allez, on va commencer à chanter, ça va faire venir les retardateurs. Forcément, c'est pas tout à fait le truc, quoi. Hein. La louange n'a pas pour but d'attendre que les retardateurs arrivent pour entendre la suite ou le reste de la louange. La louange. Nous allons en parler dans une émission sur la radio, non pas dimanche prochain, mais le 5. Et je vais juste lire en partie, enfin l'introduction de cette émission. Qui commence comme ça, pour parler de la louange. La Bible emploie 13 mots différents en hébreu et 15 mots différents en grec. Donc une très grande diversité avec laquelle on peut comprendre ou exprimer la louange. Elle peut être méditative ou exaltée. Elle peut être parlée ou chantée. Elle peut être ou non accompagnée de musique. Certains l'accompagnent par une expression corporelle et des gestes. On pense à David, le roi, qui a même dansé. Le Larousse dictionnaire dit sobrement la louange. Ce sont des paroles par lesquelles on fait l'éloge de quelqu'un. C'est assez proche de la signification biblique. Au travers de notre louange à Dieu, on fait l'éloge du Seigneur. Par Jésus, nous dit Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Et une autre traduction dit, par lui, par Jésus, faisons donc monter vers Elohim, ça c'est la traduction Chouraki, hein, un sacrifice de louange en tout temps, c'est le fruit de lèvres qui attestent ou qui proclament son nom. J'ai pas ici l'intention de faire une étude biblique sur le sujet, mais juste dire que par Jésus, nous sommes appelés à offrir un sacrifice de louange à Dieu le Père. Le terme sacrifice peut être pris dans certainement différents sens. Un des sens que je vous propose, mais qui est franchement pas limitatif, hein, c'est un sacrifice, c'est-à-dire de faire l'effort de louer le Seigneur, surtout quand ça va pas. Un sacrifice, c'est de devoir faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire naturellement. Et quand ça va pas, on n'a pas envie de louer le Seigneur. On a envie de râler. On a envie de lui dire, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de répondre à mes prières ou à mes exigences. Voilà, c'est pas limitatif, hein, mais ce matin, entendez juste ça déjà. Le sacrifice, c'est le fait de devoir faire alors que vous n'avez pas envie de faire. Vivez un sacrifice de louange à Dieu le Père en tout temps. Faites des proclamations, des attestations le concernant. En fait, je ne sais pas comment vous vivez la louange. Moi, mon expérience est très, très diverse. Jeune chrétien, pour moi, la louange, c'est-à-dire les chants, entre autres, durant le culte, mais pas uniquement, c'était des chants que j'aimais bien, quoi. La mélodie est chouette, ouais, c'est entraînant, et puis il y a des paroles qui sont quand même pas mal. Donc là, voilà, je louais et je chantais les louanges à Dieu, un peu comme ça. Ma louange à Dieu se vivait en fonction de mes émotions, du moment où j'étais là. Puis des fois, franchement, j'avais pas envie de louer. Et je vous ai déjà dit, hein, il arrive d'ailleurs que parfois je chante pas le chant parce qu'il correspond pas à ce que j'ai envie de vivre au temps présent. Je m'explique, il y a un chant. Je sais pas si vous connaissez, hein, brise-moi, courbe-moi. Alors je veux bien que Dieu me façonne, mais j'ai pas envie qu'il me brise. Je dirais, il fait assez sans que je lui demande. Alors si je lui demande, alors je veux bien qu'il me façonne, mais me briser, je vais pas lui demander. Si il veut le faire, il le fait, mais c'est pas une de mes prières. Donc, on essaye de faire attention à ce que aux paroles que l'on chante, parce que dans la louange pour le Seigneur, les paroles ont du sens. Donc, par Jésus, offrons de la louange à Dieu. Je vous dis comment que ça se passe chez moi, vous n'êtes pas obligé de vivre la même chose. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, je vous dis juste comment moi je vis les choses. Quand j'entre dans un moment de louange, je dis à Jésus, « Allez Jésus, viens avec moi, on va louer le Père. » Parce que c'est par Jésus qui est en moi, que je veux louer, et je lui dis, Jésus, toi qui habites en moi, viens louer le Seigneur avec moi. Et moi, je fais la même chose, Seigneur, je loue aussi ton Père, Dieu le Père, je loue le Père au travers de toi. Je veux pas seulement dire que c'est une gymnastique intellectuelle, mais c'est une position pour que je loue et que je glorifie le Seigneur par l'Esprit. Et lorsque nous sommes ensemble au culte, je fais la même démarche. Seigneur, avec toi présent dans cette pièce et avec mes frères et sœurs, je te loue. Je loue le Père. Je ne veux pas le louer tout seul, je le loue avec toi. De concert, toi et moi, moi et toi, nous offrons à Dieu le Père la louange et l'adoration. Est-ce que tu as l'impression, c'est juste une question, je ne te demande pas d'y répondre, Mais est-ce que tu as l'impression que quand tu loues le Seigneur au travers des chants, est-ce que tu as l'impression de le faire avec Jésus? Ou est-ce que tu as l'impression d'être tout seul pour élever ta voix et ton cœur vers lui? Alors je comprends, hein, ça dépend des chants. Tous les chants ne s'adaptent pas pour ce style de louange et d'adoration. Mais ce que je voudrais juste souligner, c'est l'importance de ne pas chanter machinalement. Parce que souvent nos chants sont des prières, sont de l'adoration, et il est préférable de savoir ou d'être conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on chante, de comment on le fait. En fait, le but n'est pas de suivre une liturgie. C'est vrai que, j'allais dire dimanche après dimanche, quand on vient au culte, on sait qu'on va commencer par un temps de louange, de chant. On a essayé une fois de dire, ben, on va changer, on va commencer par la prédication. On a arrêté parce que la moitié de l'église n'était pas encore là quand on commençait. Je ne vais pas expliquer non plus ici pourquoi la liturgie se vit et se passe comme ça. C'est pas le propos du jour, quoi. Après avoir chanté des psaumes, ils, Jésus et les disciples, se rendirent au mont des Oliviers. Juste attirer votre attention sur le fait que Jésus lui-même chantait des psaumes. Voilà, rien à dire de plus. Éphésiens, mais vous pouvez prendre la référence de Colossiens qui est à peu près semblable. Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, 16. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet Esprit, l'Esprit Saint. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Ah, c'est important, de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, mais toujours et pour tout. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand j'étais jeune, j'ai vieilli un peu, mais quand j'étais jeune, souvent je disais, je faisais ma prière et puis je terminais ma prière au nom de Jésus. En disant à Dieu, mais écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai dit au nom de Jésus, comme si c'était une recette. Comme si Dieu était obligé, quelque part, d'honorer sa parole et de répondre à ma prière parce qu'elle se terminait au nom de Jésus, ce qui n'est pas le cas. Je ne veux pas rentrer non plus dans le détail, c'était juste une parenthèse. Ensemble, en assemblée, en groupe de maison, en deux ou trois, enfin... Voilà, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. C'est pas seulement les chants en langue, c'est de louer avec un état d'esprit inspiré par l'Esprit Saint. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Même lorsque ça ne va pas, toujours et pour tout. Vers le milieu de la nuit, nous dit Actes 16, 25, 26, Paul et Silas, qui avaient reçu des coups, qui étaient emprisonnés, et priaient, et puis chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient, et puis tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondements. Paul et Silas se sont fait cogner. Ils étaient enfermés dans des conditions autres que les prisons que nous avons actuellement en Occident. Et là, alors qu'ils pourraient se plaindre en disant ben, « Seigneur, on te sert, on marche avec toi, etc. C'est pas juste, qu'est-ce que tu fais? Tu nous protèges pas, etc. etc. » Eux, ils chantent les louanges de Dieu. Et ils les chantent assez fort pour que les autres prisonniers puissent entendre. Ça devait y aller. Enfin, c'est pas le propos non plus, mais j'essaye des fois de me mettre à la place des détenus qui disent « Mais ils sont complètement cinglés, ça. Qu'est-ce que c'est ces gens qui sont là en prison et qui sont en train de chanter punaise, on chante pas dans une prison. » Mais le fait de louer Dieu par l'Esprit-Saint a produit un miracle, non seulement celui-ci, qui a été que les portes s'ouvrent et que les liens, les fers se détachent, mais ça a aussi produit un témoignage extraordinaire pour les prisonniers eux-mêmes et pour le chef de la prison qui, vivant cela, a pris le baptême dans la foulée. La louange peut avoir un impact dans l'annonce de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile au travers de la louange. Si je vais un peu plus loin, alors je vous ai dit, hein, je ne vais pas vous donner un enseignement sur la louange prophétique. Alors je ne sais pas si j'ai mis ce verset. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Élisée, le prophète, je ne sais pas si vous savez, mais il a eu besoin de quelqu'un à un moment donné, je pense que c'est la seule fois que c'est dit, mais il faut quand même le relever. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3 et le verset 15, Élisée dit « Amenez-moi un musicien, et tandis que celui-ci jouait de son instrument, l'Esprit du Seigneur s'empara du prophète Élisée. » Le fait de louer le Seigneur au travers de la musique et des chants apporte, je ne vais pas dire tout le temps, mais apporte l'inspiration de l'Esprit. En tout cas, ça a été le cas pour le prophète. La musique et la louange sont des moyens aussi pour nous faciliter, si on peut dire, l'inspiration. Celle-ci, l'inspiration vient plus facilement pour ceux qui ont la possibilité de chant en langue. J'allais dire, c'est quelque chose qui permet d'être en communion avec le Seigneur et qui nous permet d'être inspirés, j'allais presque dire plus facilement, ça dépend des personnes, mais parce que c'est pas obligé non plus, loin de là, mais c'est aussi possible. La louange comme moyen pour être inspiré en paroles prophétiques. Nous avons vécu parfois des temps de louange où, rappelle une particulièrement, on était quelque part et puis on nous a demandé de taper du pied en cadence. Alors ça faisait un peu zarbi, quoi. Hein, c'est un peu bizarre, quoi. Hein, et puis finalement, c'était très intéressant dans le sens où ce type de louange devenait une louange prophétique parce que c'était comme si nous tous qui étions là et qui tapions du pied en cadence, ben c'était comme si l'armée elle se mettait en route. Et nous devenions, au travers de notre louange, mais aussi de notre corps et de notre manifestation corporelle, nous devenions armés du Seigneur pour marcher à sa suite. Je me rappelle, peut-être que c'est à la fin, mais je suis pas sûr que je vais passer les dernières diapos. Il y a une prophétesse qui nous disait ici, n'oubliez pas les percussions, parce que les percussions, ça percute. Mais ça percute pas seulement les oreilles, ça percute le ciel. Il y a des choses qui se passent dans le ciel au travers de la louange et de l'adoration et de la contemplation qu'on n'a pas toujours... On est tellement rivé sur ce qu'on voit ici que on a du mal parfois à voir ce qui se passe dans les cieux. La louange prophétique, que ce n'est pas seulement une succession de paroles, c'est une attitude. Une attitude, celle du cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu. Répète, la louange, ce n'est pas seulement des paroles que l'on chante parce qu'elles nous font du bien, mais c'est une attitude, celle du cœur, qui bat au rythme du cœur de Dieu. Qui, tout en chantant, et en chantant, j'allais dire, nous permet d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint, de voir et de comprendre où il souffle, où il veut nous emmener et nous entraîner. Vous m'avez entendu avec le chauffard ce matin, ce n'est pas tous les dimanches, mais souvent j'ai reçu le témoignage que lorsque je soufflais du chauffard, c'est comme si l'Esprit de Dieu venait et produisait quelque chose au milieu de nous ou dans les cœurs. Mais il ne faut pas que ce soit d'une manière machinale. Et voilà, je ne le prends pas toujours. Et même quand je le prends, j'en souffle pas toujours. Si vous souhaitez en savoir plus sur la louange prophétique, reportez-vous au site de la maison de prière. Il y a un onglet où il y a marqué enseignement. Écoutez les enseignements et les ateliers. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine-là, venez à la maison de prière parce que c'est aussi comme un atelier. On apprend à louer le Seigneur par l'Esprit-Saint. En général, mais pas toujours, après la louange vient l'adoration. Il est rare qu'on commence par adorer pour continuer par la louange. Souvent, la louange prophétique nous amène à l'adoration, comme ce matin. L'adoration, c'est, entre autres, l'attitude de se mettre dans la présence de Dieu, de nous laisser saisir par sa splendeur, par sa sagesse, par son amour infini. Dans l'adoration, nous sommes en vérité devant Dieu. Nous reconnaissons sa toute-puissance et notre petitesse. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Saisis d'amour pour Dieu. Saisis parce que l'on vit avec lui. On se tourne vers lui, on se prosterne. Durant le chant, j'entre dans le Saint des Saints, je me voyais en esprit dans le ciel, prosterné devant le trône, à genoux, devant le Père et devant le Fils, avec un cœur de gratitude. Ouais, Seigneur, je mérite pas, mais j'ai envie de t'adorer quand même, quoi. Je te dépose ma vie. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 10. Vous vous rappelez de cette parole ? C'est Jésus qui le dit au diable, qui vient le tenter. Allez, je vais faire de la provoque. Est-ce que adorer Dieu, c'est lui donner la première place, vous savez ? C'est lui qui compte le plus. Et parfois, avec Daniel, on dit, on est d'accord l'un et l'autre, le Seigneur est plus important que toi. C'est pas la même chose, c'est pas le même amour. Mais il y a des priorités. Donc, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est tu feras en sorte que lui passe le premier dans ta vie. Alors la question que je me pose, que je vous pose, que je me pose à moi-même, parfois, ou régulièrement, ou plus ou moins régulièrement, c'est... Allez, je vais le dire, c'est plus facile de lire moi-même. Bernard, est-ce que tu ne t'adores pas toi-même, parfois ? Est-ce que tu ne gardes pas la première place, alors qu'en principe, elle revient au Seigneur ? Est-ce que tu adores vraiment ton Seigneur, ton Dieu, ou est-ce que tu t'adores toi-même ? En disant que toi, tu es plus important, ce que tu penses est plus important, ce que tu fais est plus important. Alors tout de suite, on a envie de dire non, mais si on gratte et si on cherche, si on se met devant un miroir et qu'on est honnête, des fois on dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je m'adore. Allô ? Vous êtes là ? Tout d'un coup, j'entends plus rien, là. Dans la Bible, il est parlé d'adoration prophétique au travers, entre autres, d'actes. Je pense aux mages qui sont venus rendre adoration à Jésus. Je ne vous parlerai pas ce matin, je n'ai pas le temps, de ce qu'ils offrent et pourquoi ils offrent cela. Marie, qui, sœur de Lazare, qui verse le parfum très cher et Jésus qui dit « Mais laissez-la, elle est en train prophétiquement de préparer ma sépulture. » Abraham qui donne son fils, enfin qui est en tout cas prêt à sacrifier son fils, son unique, celui qu'il attendait depuis si longtemps. Et qu'est-ce qu'il a dit alors, Abraham ? J'en sais rien, j'étais pas là. Mais je peux presque entendre sa prière. Mon Dieu, tu es plus important que mon fils unique que je chéris. Tu es plus important. Tu es plus important que mon fils que je chéris. L'adoration, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit. C'est l'expression de notre amour. Et il faut, nous dit Jean, chapitre 4, 24, l'adorer en esprit et en vérité. Cet amour doit être authentique. Nous l'avons, ces derniers mois, tellement dit souvent. Non, c'est pas ça. Alors je vous le dis, mais parce qu'on l'a dit et redit. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Église d'Éphèse, tu fais tout bien, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Tu fais tout bien, mais il te manque l'essentiel, il te manque ce qui est prioritaire, c'est de retrouver et de vivre le premier amour. L'amour où tu étais si enthousiaste de venir vers le Seigneur et au fur et à mesure, la routine a pris place et tu t'es habitué à la présence de Dieu, aux bénédictions de Dieu, tu t'es habitué. Et tu râles lorsque tu vois plus le Seigneur se manifester dans ta vie plus que tu ne le voudrais, mais il est en droit de te dire, mais où est-ce qu'il est ton premier amour? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ton enthousiasme? Où est-ce qu'elle est l'expression de me dire, je me tourne devant toi Seigneur et je m'agenouille parce que c'est toi qui es le plus important. L'adoration, ce n'est pas seulement des chants, c'est de vivre une réelle et volontaire soumission au Père. Et dans l'adoration, il arrive que le Seigneur se révèle, comme il s'est révélé à Abraham, à qui il a dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et finalement, il ne lui cache pas, il lui dit ce qu'il va faire à Sodome et Gomorre. Il lui partage ses intentions. Et dans l'adoration, le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut nous partager à nous, amis de Jésus. Il veut nous partager ses intentions, ses projets, afin que nous puissions les vivre ensemble avec lui, dans un partenariat, dans une collaboration. Le Seigneur, au travers de l'adoration, veut nous partager son cœur. C'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est des fois un peu plus compliqué de le vivre. Et je ne suis pas en train de vous dire que je le vis tout le temps et toujours. Je suis comme vous, avec vous. Je voudrais vous parler de la contemplation, parce que nous, on ne sait pas trop contempler. Le Larousse donne cette définition. Contempler, c'est regarder avec attention et longuement. C'est être... Alors, si on le rapproche à... Mais je crois même que c'est Larousse qui dit ça comme ça. C'est union à Dieu par la connaissance affective. Pas par la connaissance intellectuelle, mais par la connaissance affective. La contemplation, c'est ouvrir les yeux spirituels pour admirer et pour découvrir le Seigneur. Je ne perds pas de vue, dit le psaume 16, 8. Je ne perds pas de vue le Seigneur, puisqu'il est à mes côtés. Est-ce que tu perds de vue le Seigneur ou est-ce qu'il est là? Est-ce que tu le vois? Psaume 17, 15. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ou une autre traduction dit, je me rassasierai dès le réveil, je veux jouir à loisir de ton apparition. Waouh! On a envie de dire, oh, c'est beau! Mais c'est beau, ça sert à rien que ce soit beau, si on le vit pas. Et je vous invite ce matin à crier vers le Seigneur pour que nous puissions vivre jour après jour et jouir à loisir de son apparition et le voir. L'homme droit le contemple, le regarde en face, nous dit encore le psaume 11, 7. Ici. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez, étudiez, considérez, apprenez. Comment croissent les lys des champs? Matthieu 6, verset 28. Non seulement on nous demande de ne pas nous inquiéter, mais on nous demande d'observer, d'étudier, de considérer et d'apprendre. La contemplation s'apprend par l'observation, par le fait d'étudier, par le fait de considérer et d'apprendre. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, par rapport à Moïse, dans le désert, qui était obligé de se couvrir, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Le fait de contempler le Seigneur nous transforme à son image. Arrêtez. Dans le psaume 46, 10, arrêtez vos activités de sabbat et sachez que je suis Dieu. Dans la contemplation, je ne sais pas comment vous le dire, je vais le dire avec mes mots, dans la contemplation, on la ferme. C'est clair pour tout le monde ? Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, À un moment donné, vous entendez jamais le Seigneur dire, mais comment que tu veux que je te parle? T'es sans arrêt en train de parler. T'as même pas la capacité de m'écouter parce que t'as un moulin à parole. Si je suis un peu cru, c'est pas mon genre. Je dirais que le Seigneur nous dit des fois, ferme-la, afin que je puisse te parler. Mais nous avons peur des silences. On a peur parce qu'on ne sait pas trop comment gérer. Parce que nos pensées s'en vont un peu partout. Mais dans la contemplation, les silences sont encouragés par nos yeux qui contemplent Dieu. Vous avez compris? J'essaye de comprendre moi-même ce que je dis. Dans la contemplation, nos silences sont amenés par nos yeux qui contemplent la grandeur, la sagesse, la magnificence, l'amour du Père. Il faut que je termine. Il faut comprendre l'importance de la louange, de l'adoration et de la contemplation. Il s'agit avant tout de l'élévation de notre âme de l'élévation de notre amour envers le Seigneur. Je disais la semaine dernière concernant l'Église prophétique que le moteur de l'Église prophétique comme le moteur de la louange, de l'adoration et de la contemplation, c'est l'amour et ça doit être l'amour. Je ne demande pas au Seigneur de voir des choses qui se passent dans le ciel simplement par expérience, par mysticisme, mais je l'aime et je veux me tenir devant lui. Et le fait de me tenir devant lui, non seulement avec mes deux jambes sur la terre, mais avec la tête et surtout l'esprit devant le trône de Dieu. En fait, nous sommes disciples de Jésus. Ouais, non ? Il me semble. Et c'est en tant que disciples de Jésus que nous pouvons nous tenir dans les lieux célestes devant le Père. Parce que nous sommes ses filles et ses fils. Et non pas des esclaves. Tu n'es pas un ou une esclave. Tu es fille, tu es fils de Dieu. Et c'est parce que nous avons cette position spirituelle que nous pouvons aussi, dans l'humilité et dans le respect, nous tenir devant les puissances démoniaques. Toujours, hein, dans l'humilité et le respect. On ne dit pas n'importe quoi aux puissances démoniaques. Mais au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous délègue son autorité, nous avons autorité sur les puissances. Parce que nous sommes fils et filles, et parce que nous faisons les choses avec respect. C'est ce que dira Jude dans son épître. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire les armes. Oh, si j'ai mis, s'il veut bien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. C'est dans cette position que nous faisons des proclamations. Ça demanderait un culte. Un enseignement, je sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on aille plus loin en tout cas. Il y a une proclamation que parfois, enfin nous évangéliques pas trop, pas assez souvent peut-être, enfin que sais-je. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On connaît ça tellement par cœur qu'on sait plus trop ce qu'on dit. En tout cas, on n'a plus forcément toujours la pensée de l'attitude de notre proclamation. C'est, quand je dis que ton règne vienne, c'est une proclamation. C'est pas seulement juste une petite prière. Si tu veux bien, ben que ton règne vienne. C'est une proclamation que nous faisons dans le ciel devant Dieu. Parce que c'est à lui que nous le disons, mais nous le disons aussi devant les puissances démoniaques, et nous le disons aussi sur terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à Angers. Nous le demandons pas, nous le proclamons, nous l'ordonnons. Et il faut arrêter que ce genre de prières soit là, des prières toutes faites, on sait plus trop ce qu'on dit, en tout cas, on n'a plus l'attitude. Nous avons en tant que fils et filles des proclamations spirituelles à faire et il faut les faire avec l'attitude de cœur et d'amour Non pas parce que nous sommes quelque chose ou quelqu'un, mais parce que lui l'est. Ça doit être un cri de notre cœur, une proclamation. C'est ainsi que nous intercédons. Dimanche dernier, je crois, je vous disais que en esprit, quand j'intercède, je me visualise, je me projette en esprit devant Dieu, et je suis en robe d'avocat. Et j'intercède et je demande à ce que le Seigneur agisse pour telle personne ou pour telle situation, pour tel pays. C'est pas pour que ça fasse bien, c'est parce que nous avons une position à prendre. Et jeudi dernier, à la maison de prière, nous nous sommes tenus devant le Seigneur et nous avons ordonné à ce que des anges aillent protéger nos frères en Afghanistan. Et nous avons vu, en tout cas à ma part, des anges, des escouades d'anges avec des casques, avec des boucliers, avec des épées partir dans cette direction-là. C'est pas seulement juste pour faire bien. Des proclamations dans l'intercession pour que les choses changent. Alors, je suis d'accord avec vous, j'aimerais bien qu'elle change plus. J'aimerais bien que ce soit plus visible dans les exaucements. J'aimerais bien entendre que le résultat, en tout cas. Mais je laisse ça au Seigneur. Ma position est d'être veilleur. Comme la parole dit, est-ce que je trouve quelqu'un, un intercesseur? Donc nous intercédons, nous proclamons, nous ordonnons. Et il faut nous habituer à le faire. Pour des actions du Seigneur dans les cœurs, dans notre ville. Matthieu 18:18, tout ce que vous lirez sur la terre. Et puis un autre verset, si vous pardonnez à quelqu'un, ça lui sera pardonné. Est-ce qu'il y a besoin d'un prêtre pour ça? Non. À la prison, le gars, il me dit, je paye à la société 20 ans de prison pour avoir tué ma compagne. Ok, je vais les faire les 20 ans. Mais comment je vais me présenter devant Dieu? Il a fallu que j'ordonne le pardon de son péché devant lui, pour qu'il en soit libéré. Il a fallu que j'ordonne à cette femme qui avait des relations sexuelles avec un chien, j'ai dû ordonner qu'elle soit pardonnée pour qu'elle puisse se pardonner. Et ce savoir pardonner. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le pardon soit dans ta vie. C'est pas du folklore, c'est pas des recettes. C'est pour que les personnes soient libres, libérées. Et quand on dit aux esprits démoniaques, au nom de Jésus-Christ, tu sors parce que tu n'as aucun droit là, alors il doit sortir. C'est pas pour faire croire. Nous donner de l'importance ou de la puissance, c'est pour que les œuvres de Dieu se fassent et se vivent. Et pour ça, nous devons intercéder, proclamer, ordonner. Vivons la louange et l'adoration, la contemplation prophétique, que ça devienne de plus en plus. J'avais toute une série de paroles prophétiques que nous avons reçues, mais on va s'arrêter là. Est-ce que vous souhaitez vous former dans la louange, l'adoration et la contemplation prophétique ? Est-ce que vous voulez vous former dans les proclamations prophétiques? Alors, d'une manière pratique, fréquentez aussi souvent que possible la maison de prière, qui n'est pas seulement un lieu pour prier, mais c'est aussi un lieu où nous formons nos cœurs. Et ne soyez pas surpris par, si ça se trouve, des bizarreries. Pourquoi on fait comme ça, comme quand on tape les pieds? Alors, on n'a pas encore tapé les pieds là-haut. Mais voilà, nous avons besoin de nous lever en esprit dans ces domaines-là. On ne peut pas juste dire « Seigneur, agis dans cette ville ». Le Seigneur attend de notre part un engagement beaucoup plus grand que celui d'être assis sur une chaise en disant « Seigneur, agis dans la ville, fais comme tu veux ». Et lui de dire « Bah alors tu te lèves et puis bouge, bouge, bouge avec moi, mais bouge ». Je vous propose de lui dire « Ok, ensemble ». Prions. D'abord, Seigneur, notre prière, c'est juste de te dire que nous t'aimons. Probablement imparfaitement, mais nous t'aimons quand même. Et nous voulons te suivre et marcher avec toi, et nous voulons t'adorer, c'est-à-dire te laisser la première place dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie d'assemblée, d'église. Nous voulons que ce soit toi qui aies la première place. Viens nous aider à te laisser la première place dans nos vies et au milieu de nous. Nous ne voulons pas juste le proclamer, le dire, Saint-Esprit, manifeste-toi comme tu veux. Nous voulons que ce soit une réalité. Même si ça nous déstabilise parce que nous ne savons pas ce que tu veux faire et comment tu vas faire les choses, mais fais-les. Agis, interviens dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis entraîne-nous, Seigneur, dans une louange véritable avec toi, que nous puissions louer le Père avec toi et toi avec nous. Nous voulons en esprit nous voir tous, mais aussi les gens dans la ville, t'applaudir et se réjouir pour les grands faits que tu fais. En pensant à Jésus, où dans les villages, tous les gens étaient là et disaient « Mais ce qu'il fait est merveilleux !» Et nous voulons que dans cette ville, dans ce département, les gens disent « Mais ce que Jésus fait est merveilleux !» Et nous voulons entendre en esprit les gens t'applaudir, se réjouir, dire « Bravo, super !» Que sais-je encore, mais nous voulons voir la population de notre ville te louer et te glorifier pour qui tu es et pour ce que tu fais. Et pour cela, nous te prions, Seigneur, aide-nous à être, nous, tes fils et tes filles, des canaux, des panneaux indicateurs, des témoins de ta grâce, de ta bonté et de ton amour. Et jour après jour, aide-nous. Aide-moi à ne pas laisser s'éteindre notre premier amour, mais que nous soyons enthousiastes jour après jour pour qui tu es, pour ce que tu fais, et nous souhaitons que tu nous fasses entrer dans une contemplation prophétique pour que toujours nous ayons devant nos yeux ta grâce et ta gloire. Pas seulement d'une manière intellectuelle, mais par l'esprit. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Eh Seigneur, on a besoin de toi. Agis par ton esprit. Et transforme-nous de gloire en gloire, à ton image. À ton image. Non pas à l'image qu'on veut avoir de nous-mêmes ou qu'on veut apporter aux autres, mais nous voulons être transformés de gloire en gloire à l'image du Christ pour que le Père se réjouisse du fruit du ministère de son Fils. Amen. Je vous invite à terminer par un cantique.